Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h.
Ça a monté tellement haut que c'est foutu, quoi. Non, franchement, c'est angoissant. Ça nous était jamais arrivé, pas comme ça, quoi.
La dernière crue de cette ampleur dans le Lot-et-Garonne, c'était il y a 40 ans. Cette semaine, l'eau est montée à plus de 10 mètres. Les habitants constatent peu à peu l'étendue des dégâts. Comment expliquer ce genre de catastrophes ? Vont-elles se multiplier dans les années qui viennent ? Ce sera le dossier de ce journal.
4 ans après la mort du petit Tony, le beau-père du garçonnet a été condamné hier à 20 ans de prison. Sa mère écope de 4 années d'emprisonnement. Verdict salué par les parties civiles.
Sur le front du Covid, les chiffres en France sont toujours assez stables, mais les variants de plus en plus inquiétants.
Et puis les joueurs de l'OM veulent temporiser, rassurer leurs supporters à la veille du Classico face au PSG.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La bonne nouvelle, c'est que la décrue est amorcée. L'eau ne montera pas plus haut, mais dans le Lot-et-Garonne, de nombreux secteurs sont toujours inaccessibles.
Oui, des routes inondées, des maisons accessibles uniquement en bateau. L'eau de la Garonne est montée d'un coup en milieu de semaine à Fourques-sur-Garonne. Les habitants ont dû être évacués avant le pic. Et c'est dans la remorque d'un tracteur qu'ils sont revenus constater les dégâts.
Nous, on essaye d'être le plus serviable possible par rapport aux gens qui sont dans la mouise, quoi, en fait. Hein.
Bravo et merci à eux.
Les dégâts sont impressionnants, là.
Il y a pas mal de dégâts, mais le sous-sol est encore inondé. Il y a encore environ 1m10 d'eau, en gros.
Ce qu'on a mis sur parpaing, ça a monté tellement haut que c'est foutu, quoi. Tout l'électroménager, c'est-à-dire lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur.
Et en bas, il y avait une pièce en placo. Placo, c'est foutu.
Non, franchement, c'est angoissant. Ça nous était jamais arrivé. 18 ans, on avait subi des petites crues qui arrivaient au portail ou dans la cour, mais pas comme ça, quoi. Mais on a fait tellement d'aménagements, puis on a des souvenirs, c'est chez nous.
Il y a de la solidarité, il y a aussi ça qu'il faut
beaucoup,
garder.
Beaucoup, ouais. Même on a plein de personnes qui nous ont dit, quand il n'y a presque plus d'eau, vous nous appelez, on vient avec des pompes.
Ça veut dire que ce week-end, vous allez bosser pour nettoyer, avec de l'aide de copains, de famille, il y a des gens
de qui... copains, on a nos enfants qui vont venir, on a des copains de nos enfants qu'on ne connaît même pas, mais que tout de suite, ils se sont appelés pour leur dire, on va venir pour vos parents. Enfin, et on a des amis qui sont assez loin, dans la Vienne et tout, ben, ils ont dit, on vient.
Véronique et Didier, deux habitants de Fourques-sur-Garonne, au micro de notre envoyé spécial Stéphane Place. Mercredi soir, au pic de la crue, l'eau est montée jusqu'à 10 mètres. C'est du jamais vu depuis 40 ans à Marmande, où le maire Joël Auclay pense déjà à tirer un bilan de cette catastrophe.
Il faut regarder comment sont les digues, maintenant qu'elles ont moins de pression, mais elles sont gorgées d'eau évidemment. Et puis il y a les rives du fleuve, où là il faut être très attentif, parce que c'est toujours au moment de la décrue qu'il peut y avoir des effondrements. Et puis il faudra comprendre comment la crue s'est déroulée, parce qu'elle a eu un comportement un peu particulier, avec parfois des hausses très rapides. Ce qui est sûr, c'est par rapport à 1981, les routes ne sont pas les mêmes. On a surélevé la route du pont suspendu, la rocade a créé une autre route d'accès pour le pont qui franchit la Garonne. Tout ça a modifié évidemment un peu l'entretien des fossés, probablement. Il faudra une mission d'information dessus. C'est important de comprendre ce qui s'est passé pour être meilleur la prochaine fois.
Bonjour Magali Regueza.
Bonjour.
Vous êtes géographe, vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat, maître de conférence à l'ENS et l'École Normale Supérieure. On vient d'entendre cet élu qui dit l'urbanisation a détruit le cours naturel des fleuves, des cours d'eau. Vous le confirmez, avec les changements climatiques à venir, les populations sont vraiment en danger?
Oui, les populations sont en danger. Alors elles le sont déjà, effectivement, cet élu a raison. On a beaucoup urbanisé pendant les 40 dernières années dans des zones à risque, sans prendre forcément la mesure de ces risques et en construisant de façon sûre. Et du coup, aujourd'hui, on a déjà une grande vulnérabilité et malheureusement, le changement climatique va encore aggraver ces risques de catastrophe.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire ? Et cela au plus vite ?
Alors, la plus grande urgence, c'est d'abord de rendre plus performants les systèmes de gestion de crise. Ils sont déjà bien développés, mais il faut encore les améliorer. Il faut aussi travailler avec les populations pour les évacuations, pour les bons comportements. Et puis, peu à peu, il va falloir apprendre à rebâtir ces zones pour qu'elles soient moins vulnérables. Donc, parfois, il va falloir aussi exproprier, il va falloir aussi déplacer des populations. Mais la plupart du temps, on devrait pouvoir, en s'adaptant, en transformant l'habitat et les pratiques, on devrait pouvoir réussir à continuer à habiter, en tout cas pour un temps, ces zones inondables.
Est-ce que vous avez quantifié le nombre de populations qui devront, Magali Regueza, être effectivement expropriées? C'est très très difficile de quitter la maison dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a vu ses parents grandir.
C'est extrêmement difficile, c'est très traumatisant pour les populations et surtout ça va dépendre des territoires. Il y a des territoires où on va choisir de laisser les gens. Dans d'autres territoires, on va plutôt se dire il vaut mieux les faire partir pour les envoyer ailleurs. Et donc tout ça va devoir se décider territoire par territoire en fonction de tas de paramètres. Et pour ça, on a besoin vraiment d'un État qui soit là pour donner des grandes orientations qui respecte aussi ses engagements, notamment sur l'atténuation du changement climatique, qui développe ses plans d'adaptation. Et puis aussi, il va falloir réfléchir à nos mécanismes d'indemnisation et de solidarité nationale, parce qu'ils vont être, ils vont vraiment être mis à l'épreuve dans les années futures.
Merci beaucoup Magali Regueza, et on verra comment s'adaptent les assureurs à ces évolutions météo. Jacques de Peretti, le patron d'AXA, sera notre invité tout à l'heure à 7h40.
Merci à vous.
Hier, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu à Marmande. Il a assuré aux sinistrés que l'état de catastrophe naturelle sera décrété dans les plus brefs délais. Ce matin, 9 départements sont toujours placés en vigilance orange pour des risques de crues.
Il est 7h05, après 5 jours d'audience et une soirée de délibération, le verdict est tombé. Tombé aux assises de la Marne, le beau-père du petit Tony a été condamné à 20 ans de prison.
Assorti d'une peine de sûreté des deux tiers, les coups qu'il a portés sur le petit garçon ont entraîné sa mort. La mère de Tony, elle, est condamnée à 4 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Un verdict salué hier soir par Olivier Charlot, l'avocat du père biologique de Tony.
C'est la satisfaction, ils ont été effectivement reconnus coupables de l'ensemble des faits qui étaient reprochés. On avait une mère qui contestait sa culpabilité, donc c'est important que la cour d'assises ait rappelé point par point qu'elle avait effectivement manqué à ses obligations de mère, qu'elle n'avait pas su protéger son enfant, qu'elle n'avait pas su appeler les personnes nécessaires pour protéger cet enfant. Parce que je crois qu'il aurait été terrible pour le père et la grand-mère que la mère de cet enfant, qui pour eux a quand même participé au décès de cet enfant, que cette mère puisse être relaxée, puisse repartir comme si elle n'avait pas eu de rôle dans les souffrances du fils, comme si elle n'avait pas eu de rôle dans tout cet enchaînement de violences qui a conduit à sa disparition.
Maître Olivier Chalot au micro de Marion Dubreuil. L'ancien candidat à la présidentielle François Asselineau a été mis en examen hier pour harcèlement et agression sexuelle. Il est placé sous le statut de témoin assisté. Deux anciens salariés de son parti ont porté plainte.
Cette question maintenant, le pari du gouvernement est-il en train de tenir? L'exécutif a décidé de ne pas reconfiner le pays, ça ne vous a pas échappé. Pour l'instant, les courbes ne flambent pas.
Oui, les indicateurs sont toujours assez stables. La pression hospitalière est même en train de baisser très légèrement. En fait, la donnée qui inquiète aujourd'hui, ce sont les variants. Mathieu Charrier.
Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 chaque jour est stable. À un niveau élevé, certes, un peu plus de 20 000 cas journaliers, mais ce chiffre n'augmente quasiment plus. Dans le même temps, le nombre des hospitalisations semble lui aussi se stabiliser, tout comme le nombre de morts du Covid chaque jour. Le problème, c'est qu'il y a une grosse ombre au tableau, celle du variant anglais, qui continue sa progression puisqu'il représenterait aujourd'hui près de 14% des nouvelles contaminations, contre 3% il y a un mois. Un variant plus contagieux, mais qui pourtant, pour le moment, ne fait pas augmenter notre R0, c'est-à-dire le nombre de personnes que contamine un malade. Il reste très légèrement supérieur à 1, explique Daniel Lévy-Brul, épidémiologiste à Santé publique France.
S'il n'y avait pas les variants, probablement on serait au-dessous de 1. Il est probable que le R effectif va passer largement au-dessus de 1. Des mesures plus strictes viendront nécessaires.
Autre point important, les vacances scolaires qui vont limiter les brassages dans les transports en commun, par exemple, ou dans les cantines. Et puis la vaccination qui se poursuit. Plus de la moitié des résidents en EHPAD ont été vaccinés, 13% des plus de 75 ans. Et comme ce sont eux les plus fragiles, leur protection pourrait permettre petit à petit de soulager le système hospitalier, même si le R0 recommençait à augmenter.
Pour l'heure, c'est donc dans une France déconfinée que les vacances ont commencé pour la zone A hier. Il est possible de se déplacer librement sur le territoire à condition de respecter bien sûr les mesures sanitaires, le couvre-feu à 18h et le port du masque.
Et oui, justement, ce masque, on s'y est peu à peu habitué. Regardez-nous en studio, ma chère Marguerite. Sauf peut-être quand il s'agit de faire du sport.
Oui, hein. Là, c'est plus compliqué. Plusieurs entreprises tentent depuis des mois de fabriquer un masque spécial pour pouvoir respirer tout en courant, par exemple. La marque Salomon vient d'annoncer une mise sur le marché de son nouveau masque dans les 15 jours qui viennent. Le problème, c'est que rien ne nous dit qu'il soit efficace. Salomon n'a pas attendu l'homologation. Laura Taouchanoff.
La promesse ferait rêver plus d'un coureur. Un masque protecteur avec une grille de ventilation pour allier sécurité et confort. Le problème, la mise en vente de ce nouveau masque de sport est annoncée avant la validation d'une norme AFNOR spécialement travaillée pour ce type de masque. Elle devrait être rendue publique dans les prochains jours. Et si on regarde en détail, ce masque Salomon est homologué catégorie 1, à savoir exactement la même filtration qu'un masque en tissu grand public. Salomon joue sur les mots, c'est un coup de publicité, estime-t-on au ministère des Sports. Mais pour Gilles Réguillon, président de Chamatex Group, le fabricant de textiles, il n'était pas question d'attendre le cahier des charges de l'État.
Nous, on fait le pari de lancer le produit parce que ça fait 10 mois qu'on travaille dessus. Moi, j'ai investi beaucoup d'argent. On ne sait pas quand est-ce que la norme va tomber. Catégorie ici, catégorie là. Alors, vous comprenez que nous, industriels, on est un petit peu à la merci des normes qui tombent. On a fait un travail très sérieux, très pertinent avec des gens qui sont pointue. On verra bien quand la norme tombera et on essaiera de s'ajuster.
Le fabricant espère être compatible avec cette norme AFNOR. Son objectif est d'écouler 10 000 exemplaires tous les mois.
Les précisions de Laura Taouchanoff. En France, c'est aujourd'hui que le vaccin AstraZeneca sera utilisé pour la première fois pour les soignants de moins de 65 ans. À ce jour, plus d'1 700 000 personnes ont reçu une première dose.
Oui, page spéciale vaccination tout à l'heure dans le 8-9 avec tous les éléments en journal de 8h. Elisabeth Bouvet, la présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé à 8h15. Et Nathalie Coutinet, économiste de la santé chez Frédéric Tadei dans cette arrivée cette semaine.
130 000 demandeurs d'emploi vont devoir patienter avant de toucher leur prime Covid promise par le gouvernement. C'est une prime qui peut aller jusqu'à 900 euros, notamment pour les saisonniers ou les salariés de l'hôtellerie-restauration. Mais les services informatiques de Pôle emploi n'étaient pas configurés pour ce type de versement.
Parmi les Français en difficulté depuis des mois, il y a les jeunes, les étudiants isolés, les jeunes actifs qui tentent de percer un marché en crise.
Jean Castex sera à leur côté aujourd'hui. Le Premier ministre se rend à Châteaubourg en Ille-et-Vilaine. Louis Dragnel, tous ces déplacements désormais sont axés vers la jeunesse.
Clairement, oui. Désormais, presque plus un déplacement du président ou d'un ministre sans un échange avec des étudiants ou avec des jeunes. Une jeunesse frappée par la crise, une jeunesse qui inquiète le gouvernement depuis plusieurs semaines. Alors le Premier ministre doit visiter à Châteaubourg une entreprise familiale qui fabrique du matériel agricole et surtout qui recrute. Jean Castex veut montrer qu'il est sur tous les fronts. Un objectif revendiqué, vérifier que les décisions prises à Paris en faveur de l'emploi des jeunes, avec notamment le dispositif « Un jeune, une solution », s'exécutent sur le terrain et répondent aux besoins de la jeunesse. En dépit de la crise, le Premier ministre veut également montrer qu'il y a des embauches en France avec des entreprises qui recrutent. Rappelons que chaque année, 750 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Et depuis un an, un constat, entre le travail généralisé, les entreprises sans visibilité, en faillite ou sous perfusion du gouvernement, eh bien les recruteurs ne courent pas les rues.
Louis de Raguenel est noté d'ores et déjà que toute la semaine prochaine, Europe 1 lance son opération Europe 1 solidaire, consacrée à cette jeunesse marquée par la crise. Nos invités, nos experts, on tentera d'apporter des conseils, des coups de main également pour les jeunes en direct. Rendez-vous dès lundi matin.
En Birmanie, le réseau Internet est coupé depuis ce matin, quelques jours après le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Et puis toujours à l'étranger, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont convenu la nuit dernière de relancer les liens transatlantiques après 4 années de présidence Trump.
Allez, place au foot avec un classico qui nous attend demain. L'OM reçoit le PSG. Ouais, ça a l'air de vous faire marrer, je ne sais pas pourquoi.
Oui, mais c'est surtout très compliqué pour Marseille qui n'a pas d'entraîneur depuis le limogeage d'André Villas-Boas et des supporters déçus évidemment par le début de saison. Hier, c'est le capitaine Steve Mandanda qui a voulu jouer l'apaisement.
On est arrivé à un point qui était catastrophique tout simplement, mais on a encore cette possibilité de calmer, de discuter et d'apaiser les choses. C'est de faire front et d'être unis tout simplement, mais d'être unis ensemble, joueurs, direction, supporters, pour que l'Olympique de Marseille retrouve une certaine image. Parce qu'aujourd'hui, on est tous responsables, les joueurs par rapport aux résultats, les supporters par rapport à ce qu'on a pu montrer. Comment ça va se passer, je ne sais pas, mais forcément par des discussions et par des échanges. Et puis après, c'est toujours la même chose. Tant que quand nous, les joueurs, on fait ce qu'il faut sur le terrain et qu'on a des résultats, l'ambiance derrière aussi est plus facile. Donc on va tout faire chacun dans notre rôle pour essayer de retrouver une meilleure situation.
Le gardien de l'OM, Steve Mandanda, avec Stéphane Frangy. Ce soir, on suivra 3 rencontres. Lorient-Reims, Lyon-Strasbourg et Lens-Rennes. Et puis en rugby, on suivra aussi, bien sûr, le début du tournoi des 6 Nations. Les Bleus affrontent l'Italie à 15h15.
Merci, c'est bien précis tout cela, ma chère Marguerite Lefebvre. Vous revenez pour le grand journal de 8h tout à l'heure où nous ouvrirons donc une grande page sur la vaccination.